France Inter. La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec Caroline Eliachef.
Bonjour. Si vous avez un jour consulté un psychanalyste, il ne vous aura jamais autant parlé que dans ces émissions que vous êtes nombreux à écouter, tout en étant le plus souvent seul, tandis que moi-même je suis seule devant mon micro à imaginer que vous m'écoutez. Mais il y a une situation différente de la radio où le psychanalyste parle beaucoup mais sans être seul. C'est lorsqu'il exerce son métier avec des enfants. Surtout lorsque, du fait de leur âge, ces enfants n'ont pas encore acquis le langage. En clair, ce sont des bébés. On m'a souvent demandé à quoi ça sert de parler à un bébé, les plus audacieux ajoutant « puisqu'il ne comprend rien ». C'est à cette question que je vais répondre, mais heureusement, on a parlé au bébé bien avant de savoir à quoi ça servait, mais peut-être faut-il convaincre ceux qui pensent que ça ne sert à rien. Et je répondrai ensuite aux questions que vous m'avez déjà laissées par note vocale sur notre page L'Inconscient sur franceinter.fr ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04.
L'Inconscient avec Caroline Eliachef sur France Inter.
Je vais commencer par vous raconter ce qui se passe quand on ne parle pas du tout à un enfant. Au XIIIe siècle, l'empereur du Saint-Empire romano-germanique Frédéric II installa 6 bébés dans une pouponnière et ordonna à leurs nourrices de les alimenter, les endormir, les baigner, mais sans jamais leur parler. Lui-même parlait 9 langues, le latin, le grec, le sicilien, l'arabe, le normand, l'allemand, l'hébreu, le yiddish et le slave. Il voulait savoir quelle était la langue naturelle de l'être humain. Non seulement ces enfants ne parlèrent aucune langue, mais ils sont tous morts.
Victor n'est avec nous que depuis 3 mois et je comprends que j'ai eu tort d'aller trop vite. Il me faut d'abord réveiller ses oreilles dont l'engourdissement est bien compréhensible. Elles ne lui ont servi pendant des années qu'à l'avertir dans la forêt de la chute de quelques fruits sauvages ou de l'approche d'un animal dangereux.
Bien.
François Truffaut a dit que l'expérience de Frédéric II l'avait inspiré pour son film « L'enfant sauvage » sorti en 1969, en imaginant quel serait le comportement d'un enfant ayant survécu à un traitement quelque peu comparable au seuil de sa 13e année. Vers 1800, le jeune Victor de l'Aveyron est trouvé par des chasseurs dans la forêt, vivant comme un animal. Recueilli et éduqué par le professeur Itard, il réintégrera le monde des humains et certains de ses codes, mais pas le langage. Cette malheureuse situation montre de façon vertigineuse que la vision que l'on a du monde dépend de la façon dont on a été amené à en avoir connaissance. Pour illustrer cette idée, je ne me souviens plus qui a dit « un hérisson ne traverse pas la route ». On voit également que Victor a survécu dans un environnement animal, mais que, n'ayant pas acquis le langage à l'âge habituel entre 2 et 4 ans, il ne parlera pas.
Victor, demande-moi ton lait. 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 Non. Attends. Lait. Lait. Tiens, regarde ce que je vais faire. Non, Non.
Une autre expérience, positive cette fois, montre elle aussi que parler à un bébé est une question de vie ou de mort. Françoise Dolto raconte que dans le service de pédiatrie du professeur Ribadeau-Dumas, où elle était externe, le chef de service a demandé aux infirmières de passer 5 minutes 2 fois par jour avec chaque enfant sans pratiquer aucun soin, juste pour parler ou cajoler. La mortalité infantile a chuté dans ce service de façon spectaculaire à une époque où les antibiotiques n'étaient pas encore arrivés. Parler à un enfant lui sert à se donner à la vie et à apprendre à parler à une période critique de son développement. Un corps, cerveau compris, est indispensable mais pas suffisant pour entrer dans le monde humain et acquérir le langage. Il faut, disons, être quelques-uns à avoir la parole, à s'en servir dans une relation affective qui dépasse les soins corporels dont l'enfant ne peut pas non plus passer en raison de son immaturité, et l'on peut déjà parler d'une communauté sociale. Admettons maintenant que cette communauté sociale existe, mais que pour diverses raisons, tel nourrisson en soit exclu. Par exemple, dans certains orphelinats, ou les enfants dits « du placard », ou même des enfants à qui on n'adresse jamais directement la parole comme s'ils étaient des objets. Qu'est-ce qu'on observe ? Des enfants qui se stimulent eux-mêmes à la faveur de la moindre modification de leur environnement. Un ray de lumière, un vol de poussière ou d'une plume. Parfois, ils se servent de leurs mains, qu'ils agitent comme des marionnettes, ou de leur tête, qu'ils balancent jusqu'à se cogner pour créer du mouvement. Peut-être qu'ils cherchent à retrouver le souvenir de l'époque antérieure, la période fœtale, dans le sens de faire revivre du connu. En 1946, le psychiatre et psychanalyste René Spitz a décrit l'hospitalisme. L'hospitalisme, c'est un état dépressif, avec régression physique et psychique, qui se manifeste chez certains enfants séparés précocement de tout lien affectif et qui entraîne des séquelles physiques et psychiques parfois irréversibles. Est-ce que ces situations ont disparu ? Eh bien non. En août 2022, Le Figaro a publié un article intitulé « Le drame de l'hospitalisme chez les bébés placés ». Faute de personnel et de place, il arrive encore qu'on voit des enfants à qui personne n'a pris la peine de parler. Ça s'appelle de la négligence, aussi grave que la maltraitance. La négligence, c'est ce qu'on ne fait pas. Encore un autre exemple, plus courant, d'une carence de parole. Les nourrissons élevés par une mère ou son substitut souffrant de dépression, situation que nous connaissons bien. Pourquoi est-ce que nous recevons ces enfants ? Le plus souvent, ils sont surexcités et ça se traduit par des cris incessants, associés ou non à des troubles du sommeil. Quant à l'adulte, la dépression infiltre l'ensemble de son comportement, son langage, ses gestes, son tonus, l'expression de son visage. Tout est atténué, éteint, empreint de tristesse et surtout la personne est ailleurs. Dans Babyphone, qui est une fiction audio visible sur MyCanal, Anna Girardot, qui s'inspire des films d'horreur qu'elle affectionne, a tenté de faire ressentir à l'auditeur la solitude, l'épuisement, l'isolement d'une mère souffrant de dépression du postpartum. Certains enfants, surtout les plus sensibles, surréagissent en amplifiant leurs réponses perceptives, en offrant un plus de vie à celle qui ressent moins de vie. L'incompréhension qui en résulte parfois du côté de l'adulte peut être dramatique, de l'ordre du passage à l'acte sur le corps de cet enfant trop vivant qui veut insuffler de la vie, prenant en charge sa mère avec les moyens dont il dispose. Incompris, il peut être ressenti comme un persécuteur. Il y a d'autres façons d'être ailleurs tout en étant présent. Par exemple, lorsqu'une personne bien portante donne le biberon, le sein ou tout autre soin, collé à son téléphone portable, parlant à une personne que l'enfant ne voit pas. Ça doit lui paraître bien étrange. Pour les nourrissons placés en pouponnière que je recevais en consultation, le drame avait eu lieu. Séparation, deuil, maltraitance, négligence, abandon. ils souffraient essentiellement du chaos de leurs sensations, qui de fait des circonstances n'étaient pas liées, reconnues, symbolisées dans l'espace, sinon dans le temps. Une situation m'avait particulièrement frappée, car il avait été possible d'y remédier. Il s'agit de ces enfants qui attendent leurs parents en visite, ou qui attendent un placement en famille d'accueil, ou une adoption, bref, une décision concernant directement leur devenir. Bien informés de leur situation et de ce qu'ils attendent, ils peuvent s'autoriser à grandir, à parler, à nouer des liens, bref, à développer leur forme de vie dans un environnement stimulant qui les y encourage. Et puis, au bout d'un certain temps, on les voit qui s'épuisent, en se repliant, en perdant leur bonne humeur, en tombant malades de façon spectaculaire ou plus banale, mais répétitive. C'est ce que le psychanalyste Denis Vasse appelle joliment le langage organique, ajoutant qu'il n'est organique que de n'être pas langage. Freud, lui, écrit en 1908 « L'enfant pense avec son corps ». Les enfants sont bien sûr soignés médicalement, mais ils ne se remettent pas ou rechutent rapidement. Pourtant, rien n'a changé. Je devrais plutôt dire « précisément rien n'a changé ». On ne leur dit rien sur leur situation puisqu'il n'y a rien à dire. Or, il suffit qu'un responsable institutionnel reçoive l'enfant et lui dise que sa situation n'a pas évolué et que tout le monde attend, comme lui, pour que d'une part l'enfant guérisse et de l'autre retrouve le dynamisme qui lui est propre. C'est pas une raison pour le faire attendre trop longtemps. Certes, ces situations peuvent être qualifiées d'extrêmes, mais on les retrouve dans la vie courante quand elle n'est pas un long fleuve tranquille. Le long fleuve tranquille peut aussi être un peu ennuyeux. Vous avez peut-être remarqué chez des enfants un peu plus grands que certains ne cessent de demander « qu'est-ce qu'on va faire après ?» à peine ont-ils commencé une activité. Ça permet de toucher du doigt cette angoisse que ressentent tant d'adolescents aujourd'hui quand, ne sachant pas ce que l'avenir leur réserve, ils s'imaginent n'avoir aucune prise sur le futur, comme lorsqu'ils étaient petits. Je reviens au bébé. Grâce aux chercheurs scientifiques, on sait aujourd'hui que le cerveau du nourrisson passe son temps en recevant des stimulations de l'extérieur et de l'intérieur à faire du lien, des correspondances, des classifications, du sens, et lui-même, il émet des signaux extrêmement sophistiqués. Le cerveau possède d'emblée la triade des fonctions cérébrales supérieures, la catégorisation perceptive, la mémoire et l'apprentissage. Le fait que le cerveau soit relié intimement au corps permet au bébé d'exprimer ses émotions par des manifestations biologiques. L'activité symbolique présente dès la naissance se traduit d'abord au niveau des fonctions corporelles. Ça dure toute la vie, bien que le langage, lorsqu'il est acquis, prenne le dessus. Il n'empêche qu'on retrouve la présence du corps comme métaphore dans le langage dans beaucoup d'expressions. Par exemple, « il me casse les pieds »,« elle me pompe l'air »,« ça sent mauvais pour toi »,« j'ai vu rouge », etc. Les fonctions corporelles, comme l'appareil digestif, les poumons, le système immunitaire, la sensorialité, sont présents dès la naissance et ne nécessitent pas d'apprentissage. Quand elles dysfonctionnent, en réaction à un événement déclenchant perçu par le nourrisson, c'est souvent de façon répétitive, par des vomissements, des diarrhées, des troubles respiratoires, des atteintes de la peau, de la fièvre, une accélération des battements du cœur. En tant que psychanalyste, on peut écouter le fonctionnement du corps comme on écoute les paroles d'un analysant ou comme on regarde la production graphique d'un enfant. Il est comme l'effet de l'inconscient de celui qui le produit et concerne l'expérience du sujet. Je dis « comme » car les avis sont partagés sur le fait de savoir si on est ou pas avec un inconscient. Écouter un bébé pendant qu'un adulte, un professionnel ou un parent raconte son histoire n'est pas de l'observation. C'est avoir tous les sens en éveil pour les laisser résonner en soi. Le regard, la posture, les mimiques en réaction au récit, les mouvements, la tonicité, les cris. Cette résonance, comme l'écoute flottante, doit nécessairement suspendre tout jugement, mais n'empêche ni de penser, ni de parler.
L'inconscient, avec Caroline Eliachef sur France Inter.
C'est d'ailleurs pourquoi il s'agit de ne pas dire n'importe quoi. La parole, celle du psychanalyste en l'occurrence qui s'adresse à un bébé en souffrance, doit le référer à son histoire parce qu'il y a eu rupture, absence, disharmonie, mensonge, voire violence. Quand je traduisais, en m'adressant directement à eux, ce que j'entendais en le liant à ce qu'ils m'exprimaient, je pensais que c'était comme mettre des sous-titres. Comme au cinéma, il donne le sens général avec une perte dans la richesse du vocabulaire, un peu irritante pour ceux qui sont parfaitement bilingues. Mais le sous-titrage est supérieur au doublage qui efface la langue originelle qu'on aime entendre, même si on ne la comprend pas. Parfois, quand on ne comprend rien, ce qui est souvent le cas, on peut tout simplement dire qu'on ne comprend pas, mais que cela a du sens. Est-ce que c'est pas la moindre des choses, alors que le bébé lui-même, comme les neuroscientifiques l'ont démontré, passe son temps à faire du sens sans tout comprendre? La parole vraie, émise par une vraie personne, code, donne un sens, relie, met de l'ordre, remplit, apaise. Mais qu'est-ce qu'une parole vraie? C'est précisément lorsqu'il y a accord entre les mots et le corps de celui ou de celle qui parle. C'est à cette condition que les paroles auront cet accent de vérité que l'être humain décèle dès son plus jeune âge. Et la clinique des nourrissons nous en apporte les preuves tous les jours. Alors que la personne qui parle ne peut pas savoir si elle produit cet effet. L'accent de vérité tient à l'assentiment à ce qu'on dit et au fait qu'on a consenti à être touché par la parole de l'autre. Il ne signifie pas qu'on dit « la vérité ». Car on peut se tromper, et on se trompe souvent, mais il signifie qu'on ne ment pas. Les jeunes patients que j'ai eu l'honneur de soigner m'ont appris aussi que la possibilité d'organiser les sensations et de leur donner un sens prime dans un premier temps et de loin sur la gravité des choses qu'on peut avoir à leur dire. Il est très important de le savoir, car la sensiblerie est mauvaise conseillère lorsqu'il faut dire à un enfant les choses tues mais perçues. Par exemple, à un enfant abandonné qui ne reverra pas ses parents, ou que l'un d'eux ou son jumeau est mort, ou que son père est en prison. Le bébé qui a perçu des modifications sensibles de son environnement éprouvera toujours un mieux-être au sens d'une concordance entre ses propres sensations et son environnement après qu'on lui a parlé. La peur de blesser un enfant, de l'exposer à la vérité, relève, je crois, du fait que nous n'arrivons pas à intégrer que pour un enfant, quel que soit son âge, comme d'ailleurs pour nous, il vaut toujours mieux savoir et échanger autour du savoir, aussi douloureux soit-il, qu'ignorer et rester seul avec son ignorance. Les paroles lui sont directement adressées. Elle le désigne comme sujet et lui offre la possibilité d'habiter son corps. Il ne s'agit pas de consoler, encore moins de réparer, mais de symboliser la souffrance en réordonnant l'histoire pour assurer à l'enfant son identité à travers ses origines et lui permettre d'assumer ses prérogatives de sujet. La présence de l'autre par la parole, lorsqu'il est capable de mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X, même s'il n'en comprend pas l'origine, apparaît pour le nourrisson comme un organisateur capable de mettre en place, de modifier, de déplacer les conditions de fonctionnement du corps biologique et donc du psychisme. Elle permet à l'enfant de donner un sens à ses perceptions, dont l'exploration est en plein essor. Elle paraît être le plus puissant des stimulants à la vie affective, donc symbolique, mais aussi, comme on l'a vu, à la vie tout court. Lorsque rien n'est dit, un bébé ressent du chaos ou du vide. Mais lorsqu'on dit une parole fausse, ce même bébé s'organise autour de cette parole qui est un désaveu de ses perceptions. Par exemple, lors du décès d'un parent ou de tout autre événement bouleversant, l'enfant ressent fort bien l'atmosphère familiale et ne demande qu'à y être associé puisqu'il est concerné. Si on lui dit, sous prétexte de ne pas lui faire de peine, que le mort est parti en voyage ou tout autre baliverne, comme ça se fait encore souvent, il ne peut plus lier ce qui se passe autour de lui à ce qu'il ressent. Il cherchera alors une autre explication, en intégrant ce qui vient de lui être dit, même s'il sait au plus profond de lui-même que c'est un mensonge. Il n'est pas en âge de mettre en doute la parole des adultes dont sa survie affective dépend. À un âge plus avancé, j'ai souvenir d'un enfant qui avait environ 5 ans et qui venait en consultation parce qu'il ne voulait plus sortir de chez lui. Son grand-père était mort peu de temps avant et on lui avait dit qu'il était au ciel. Et comme cet enfant était très souvent grondé par son grand-père quand il faisait une bêtise, il ne voulait plus sortir dehors pour que son grand-père, dans le ciel, ne le gronde pas. Françoise Dolto disait, je la cite, que parler à un enfant n'est pas une question de niveau de langage, mais de coïncidence du sens et du temps de le dire. Fin de citation. Dans ses propres consultations avec les nourrissons, j'ai constaté qu'elle insistait énormément sur la nomination. Nomination de l'enfant par son prénom, qu'il intègre immédiatement à l'ordre symbolique, familial et social, mais aussi nomination des objets manipulés pendant la séance. Pourquoi ? Si, expérimentalement, un enfant, avant le langage, reconnaît, classe et éventuellement préfère des rayures horizontales aux rayures verticales, il lui manque l'essentiel pour faire du sens, à savoir l'affectivité. Toutes les sensations partielles que l'enfant reçoit, sonores, visuelles, tactiles, olfactives ou internes, ne prennent sens que dans la relation avec quelqu'un. Des objets classés, mais non reliés affectivement, sont probablement interchangeables, ce qui ne veut pas dire identiques. Dans les cures avec les nourrissons, c'est facile à observer. Ils prennent les feutres comme des bâtons, ils les portent tous indifféremment à la bouche. Mais dès que l'objet est nommé, c'est un feutre de telle couleur que tu portes à ta bouche, l'enfant le regarde, l'objet se met à exister, car investi de paroles, le nourrisson regarde les autres feutres et se met à les choisir au fur et à mesure que l'on nomme les couleurs pour lui. La nomination sert bien sûr à la création du lexique, sans lequel l'enfant n'apprendra pas à parler. Mais elle va bien au-delà. La personne qui parle, disons la mère ou son substitut, lie les objets à sa personne en les nommant. Les objets nommés vont en quelque sorte la représenter, ce qui est de la plus haute importance pour se représenter le monde et aussi pour que le monde reste habité lorsqu'on est seul. Il s'agit en fait, pour l'avenir, d'une prévention du sentiment insupportable de solitude dont on ne peut ignorer qu'il s'agisse d'un problème très grave chez les personnes âgées et moins âgées. Reste la question non élucidée à ce jour de savoir ce que les enfants comprennent. Voilà ce qu'en disait Françoise Dolto, je la cite. De façon générale, la compréhension d'un mot dépend à la fois du schéma corporel de chacun et de la constitution de son image du corps, reliée aux échanges vivants qui ont accompagné pour lui l'intégration, l'acquisition de ce même mot. Fin de citation. Le psychanalyste fait le pari que l'enfant, quel que soit son âge, va comprendre ce qu'on lui dit et travaille avec cette conviction. Au neuroscientifique d'en apporter la preuve ou le démenti. Si, heureusement pour vous, vous n'avez pas connu de cataclysme dans votre petite enfance et vous n'en avez pas fait vivre à vos enfants, je pense néanmoins que, comme la plupart des bébés, vous avez eu des expériences très précoces de perceptions internes ou externes qui n'ont pas pu être codées, c'est-à-dire liées par de la parole, qui sont restées en l'air ou seulement associées au chaos ou au vide, et peut-être même, plus grave, que vos perceptions n'aient été désavouées. Or, J'observe au cours de consultations d'enfants plus âgés ou d'adultes en analyse, mais aussi autour de moi, la fréquence avec laquelle les gens se plaignent de ne pas avoir confiance en eux. Je vois une relation entre ces expériences précoces de chaos émotionnel et le manque de confiance en soi. Comme si, dans certaines circonstances, le manque de confiance relevait d'une crainte, voire d'une phobie à faire du sens avec ce que l'on ressent, associé à la nécessité de faire appel à l'autre en guise de réassurance. Ça ressemble étrangement à la nécessité pour un bébé qu'un adulte mette des mots sur ce qu'il perçoit ou exprime par un malaise pour être apaisé. Avoir confiance en soi implique bien sûr de pouvoir oser se tromper sans en être brisé, de vivre l'erreur comme une expérience et non une faute. Une ouverture permettant de se faire à nouveau confiance en réorganisant différemment les choses. Il me semble que les découvreurs, qui sont des fondateurs, au sens où, après leur découverte, la perception du monde est différente, sans retour en arrière possible. Je pense à Galilée, je pense à Copernic, je pense à Freud ou à Pasteur. Eh bien, ces découvreurs sont des personnes qui ont suffisamment confiance dans leurs pensées, soutenues par leur travail expérimental ou purement conceptuel, pour imposer, sans tyrannie, au reste de l'humanité, une organisation nouvelle de l'infiniment grand ou de l'infiniment petit. Ils ont des capacités supérieures à faire du sens, avec des éléments qui, pour d'autres, ne sont pas perçus ou restent non liés. Mais l'être humain ne peut pas faire du sens tout seul. Il s'agit toujours de faire du sens pour ou avec un autre. Même les grands découvreurs ont besoin pour transmettre leur découverte qu'au moins un autre, parmi leurs pairs, adhère à leur pensée. Je ne voudrais pas laisser place à vos questions avant d'avoir évoqué la question de l'écoute. Car le métier de psychanalyste n'est pas tant de parler que d'écouter, et que vaut une parole si elle n'est écoutée? Aujourd'hui, les enfants, nos enfants, certains enfants sont gavés de paroles. Mais savons-nous les écouter, surtout lorsqu'ils ne parlent pas encore? Et plus largement, qu'en est-il de l'écoute des paroles qui se disent aujourd'hui libérées? Écouter quelqu'un, c'est pouvoir s'identifier à ce qui est dit. C'est quelquefois faire l'hypothèse qu'un sens viendra plus tard, transformer ce qui n'est qu'absurde ou incohérent. La difficulté d'écouter vient de ce que cela provoque en nous. Il y a au moins deux façons de ne pas écouter. L'une consistant à ne pas reconnaître l'autre comme semblable à soi dans une humanité commune, l'autre consistant à ne pas le reconnaître comme différent de soi, témoin d'une autre facette de notre condition humaine. Il me semble que les nourrissons suscitent en nous, parents ou professionnels, ces sentiments puissants et parfois archaïques qui nous limitent considérablement dans nos rapports avec les enfants et dans la compréhension que nous aspirons consciemment à en avoir. Peut-être est-ce aussi le cas pour toutes les paroles dites libérées, bien difficile à écouter sans préjugés, si l'on veut bien s'accorder le droit d'aller au-delà de leur contenu manifeste.
France Inter présente son premier podcast interactif, L'inconscient, avec Caroline Eliachef.
Dans un instant, je vais répondre aux questions que m'ont adressées les auditeurs qui ont déjà écouté cet épisode en podcast. Je vous rappelle que nos sujets sont disponibles sur les plateformes d'écoute et que vous pouvez nous laisser, avant la diffusion à l'antenne, vos questions et vos remarques sur notre page L'inconscient sur franceinter.fr ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Mais d'abord, écoutons Andrea Laszlo de Simone qui chante pour son fils, je vous traduis, depuis le jour où tu es né.
Dal giorno in cui sei nato tu, la vita è musica e fantasia. Hai dato un volto alla vita mia, ed ora è tua. Il mondo è musica e fantasia. questo importante, il resto è una bugia che si racconta chi non ha ironia in vita sua. È musica e fantasia, tienilo a mente, non ti perderai, vedrai crescendo, lo capirai, lo capirai. La vita è musica e fantasia, ma se ti perderai, che vuoi che sia, basterà viverla con ironia, basterà viverla. Sei grande ormai, tra non molto diventerai quello che vuoi. Per me tu sei tutto, per me tu sei. Sei musica, tu sei fantasia, tu tutto sei. E i tuoi bracci sono i più belli del mondo, e i tuoi occhi sono i più sinceri, e dentro al cuore un amore vero, grande più del cielo. I tuoi bracci sono i più belli del mondo, e i tuoi occhi sono i più sinceri, e nel cuore un amore vero, dal giorno in cui sei nato tu.
C'est maintenant à vous de poser des questions et je vous écoute.
Bonjour. Quand on s'adresse au bébé, à votre avis, faut-il prendre une voix de bébé ? Merci.
Alors, je ne sais pas exactement ce que vous appelez la voix de bébé. Et en même temps, je pressens ce que vous voulez dire. Si vous voulez bêtifier en parlant à un bébé, je pense que ce n'est pas la peine de vous forcer. Vous pouvez parler à un bébé comme vous me parlez à moi, là, en laissant votre question. Maintenant, il y a aussi une forme de chantonnement quand on s'adresse à un enfant que les enfants reconnaissent très bien. Et j'appelle pas ça du tout bêtifier, du coup. Cette espèce de prosodie comme ça qu'il peut y avoir quand une mère ou un père, d'ailleurs, c'est pas réservé du tout aux mamans, chantonne, raconte comme ça, en chantonnant avec cette prosodie que l'enfant aime bien d'ailleurs. Hein. Alors là, bah oui, pourquoi pas, vous faites comme vous voulez, mais bêtifier, non.
Bonjour, je m'appelle Guillaume. Alors merci tout d'abord pour votre intervention. Et alors, je me demandais, alors c'est moins d'actualité, mais on a parfois entendu des professionnels de santé recommander aux mères étrangères de parler à leur bébé la langue du pays d'accueil plutôt que leur langue maternelle afin de favoriser l'adaptation des enfants par la suite. Mais vu ce que vous dites sur l'importance de la parole vraie avec les bébés, j'ai l'impression que ça pourrait poser problème. Alors je vous remercie d'avance pour votre réponse. Au revoir.
Oui, bonjour Guillaume. Votre question est non seulement intéressante, mais elle nous est très fréquemment posée, car c'est une situation que nous rencontrons fréquemment en rencontrant des couples qui nous amènent les enfants alors que leur langue maternelle n'est pas le français. Alors, comme dans, sur beaucoup de sujets, il y a des injonctions contradictoires. Les spécialistes sont, les 10 spécialistes, j'ai envie de dire, sont pas du tout d'accord sur ce sujet. D'un côté, gardez votre langue, on leur dit gardez votre langue maternelle. De l'autre, on leur dit parlez leur français. En réalité, je crois que il faut répondre aux couples qui eux-mêmes nous poseraient la question. S'ils ne nous posent pas de questions, faut pas intervenir. Ils font comme ils veulent. Alors maintenant, s'ils nous posent la question, c'est que soit ils ont un souci particulier, soit ils ne savent pas très bien comment faire. L'idée avec les bébés, c'est pas de les adapter, de leur apprendre le français, etc. L'idée, c'est de non seulement de nouer, mais de garder un lien affectif avec cet enfant. Et c'est aux parents de savoir dans quelle langue ils préfèrent à la fois constituer et prolonger ce lien affectif qu'ils ont déjà commencé à tisser. Je crois qu'il faut qu'ils oublient l'idée que c'est pour apprendre le français. Le français, ça viendra, la langue française, ça viendra plus tard. Vous aviez l'air de me poser la question de savoir si parler vrai, on pouvait parler vrai dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Écoutez, je ne sais pas, mais il me semble que à ce moment-là, c'est le contenu qui compte. L'idée n'est pas que il faut parler la langue française pour qu'ils s'adaptent ou pour qu'ils parlent le français. Là, on est sur des registres différents. Quand on a quelque chose à dire à un enfant de grave, d'important, il faut le dire dans la langue avec laquelle on ressent le plus de choses. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc. Pour ces couples qui se posent la question, encore une fois, s'ils ne nous posent pas la question, laissons-les faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent le faire. Et s'ils nous posent la question, il faut voir avec eux qu'est-ce qui est pour eux la langue affective et les laisser faire également ce qu'ils veulent. Il y a d'autres situations plus problématiques un peu plus tard. Il s'agit des parents qui, bien que vivant en France depuis de très nombreuses années, et j'insiste sur le « très nombreuses années », n'acquièrent pas le français. Alors, ils ont toujours des raisons pour ne pas acquérir la langue française. Soit c'est une difficulté particulière que l'on peut entendre, soit ils ont dans l'idée que c'est pas la peine parce qu'ils rentreront dans leur pays. Ce qui est évidemment, c'est évidemment leur droit de penser ça. Sauf que quand ça fait des années et des années, on se dit que peut-être que ça reste un rêve, mais qu'il n'est pas sûr que ça devienne une réalité. Je parle de ces situations parce qu'à ce moment-là, l'enfant, qui évidemment a grandi, a appris le français avec d'autres enfants, que ce soit à la crèche, à l'école, etc., devient le traducteur de ses parents. Ça, c'est un problème. C'est un problème, c'est-à-dire l'enfant occupe une fonction qui, a priori, ne devrait pas être la sienne. Voilà. C'est pas du tout la même chose que la question que vous m'avez posée au départ, de savoir si les parents doivent parler leur langue d'origine ou déjà le français. Mais ça, c'est un problème. Voilà. Pour un enfant qui va parler plusieurs langues, c'est bien évidemment une richesse de parler plusieurs langues. La langue française, s'il vit en France, la langue d'origine de ses parents, et évidemment d'acquérir encore une ou deux autres langues, pourquoi pas. Un enfant, au moment de la naissance, et pendant très peu de temps, va comprendre toutes les langues. Et ensuite, c'est comme un entonnoir. Ses capacités vont se rétrécir. Et donc, quand il est bébé, alors là, je parle uniquement de la langue, je ne parle plus de l'affectivité, entendre parler plusieurs langues est évidemment une richesse. Voilà. Et dans la vie, parler plusieurs langues est évidemment une richesse. Il y a toute une série de questions qui se posent pour savoir si les enfants bilingues ou trilingues vont avoir un retard. Est-ce qu'ils vont être en retard ? A priori, non. C'est-à-dire qu'un enfant qui aurait un retard, on aurait éventuellement tendance à l'interpréter comme le fait qu'ayant acquis plusieurs langues, il a du mal à se débrouiller. En réalité, c'est pas trop ce qu'on voit. S'il a un retard, il faut chercher une autre cause que le bilinguisme ou le trilinguisme. Et ce qui est tout à fait fascinant d'ailleurs, quand on observe ces enfants bilingues ou trilingues, c'est qu'ils ne mélangent absolument pas les langues. Alors, il y a la langue de l'école, etc. Il y a la langue maternelle. Et quand il fait semblant d'avoir oublié la langue maternelle et que les parents parlent entre eux leur langue d'origine pour que les enfants ne les comprennent pas, les enfants comprennent tout.
Bonjour, Madame Eliashev. Je m'appelle Isabelle. Et j'ai été très intéressée par ce que vous avez dit en ce qui concerne la dissonance entre ce que peut entendre l'enfant de la bouche des adultes et ce qu'il peut ressentir ou vivre. Donc moi, j'ai connu ça dans mon enfance. Mon père avait l'exclusivité du discours sur l'histoire familiale et j'étais toujours très étonnée de constater que ce que j'entendais n'avait rien à voir avec ce que je ressentais, ce que j'observais, ce que je vivais. Et je pense que ça a été extrêmement dommageable. Je pense qu'on peut vivre beaucoup de choses difficiles. Si on a un discours qui colle à la réalité, tout va bien. Mais quand c'est pas le cas, c'est très dommageable. Et donc aujourd'hui que mon père est décédé, à l'âge de 95 ans, j'aimerais me rapprocher de ma mère, justement en lui parlant, mais c'est très difficile. Manifestement, elle souhaite pas parler, ou elle ressent pas ce besoin que moi je ressens, et qui me semble très important. Et je voulais vous raconter une anecdote. Récemment, je suis allée sur la tombe de mon père, et j'ai attendu pour j'ai attendu ce qui j'ai observé, j'ai écouté ce qui pouvait venir. Et à ma grande surprise, ce qui est venu, c'est une extinction de voix, alors que j'ai pas l'habitude d'avoir des extinctions de voix, qui a duré 24 heures. J'ai été très surprise par ça. Alors qu'en pensez-vous ? J'ai eu l'impression que c'était mon père qui continuait à nous interdire de parler. J'aimerais avoir votre avis et aussi, est-ce que vous pouvez me dire comment sortir de cet interdit ? Voilà, je vous remercie d'avance pour votre réponse. Au revoir.
Bonjour Isabelle, moi je suis extrêmement émue par votre témoignage. C'est un témoignage extrêmement personnel et en même temps, il a quelque chose presque d'universel, c'est-à-dire que beaucoup de personnes pourront se reconnaître dans ce que vous dites. Ce que vous avez vécu sur la tombe de votre père, c'est vous-même qui apportez la clé. Je ne peux pas faire d'interprétation à distance, d'autant moins que, alors je ne sais pas si vous y aviez déjà pensé avant, mais le fait est qu'en le racontant, vous-même vous apportez l'interprétation, c'est-à-dire que vous dites « j'ai l'impression que c'était mon père qui continuait à nous interdire de parler », je pense qu'effectivement c'est tout à fait ça et c'est vous qui le dites. Alors, comment sortir de cet interdit ? Je pense que vous en êtes déjà pas mal sorti. Il doit être assez douloureux pour vous que votre mère ne souhaite pas parler avec vous, mais peut-être que vous avez des choses à lui dire et il faut peut-être pas vous retenir de les dire. En tout cas, merci de votre témoignage.
France Inter présente son premier podcast interactif. L'inconscient, cette semaine avec Caroline Eliashev.
Nous poursuivons à l'écoute de vos questions.
Bonjour Gaëlle, j'avais un témoignage à apporter. J'ai longtemps travaillé à l'hôpital dans un centre de PMA et j'ai été frappée de la difficulté qu'avaient les couples à envisager de parler de la manière dont l'enfant avait été conçu quand il est issu d'une PMA, et plus encore quand il est issu d'un don, d'ovocyte ou de sperme. Et les questions qui revenaient le plus souvent, c'était à partir de quand est-ce qu'on peut en parler déjà, et puis à partir de quel âge il faut commencer à dire des choses, et puis qu'est-ce qu'on dit exactement. C'était des vraies préoccupations. Donc voilà, je voulais avoir votre éclairage à ce sujet, et peut-être du coup la possibilité d'aider les couples qui se posent ce type de questions et les professionnels qui les accompagnent. Merci.
Oui, merci Gaëlle pour cette question qui est effectivement extrêmement intéressante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les couples depuis que la PMA existe, ont été soumis, si je puis dire, à des injonctions contradictoires. Hein, pendant des années, on leur a dit « il faut rien dire », et maintenant on leur dit « il faut tout dire ». Et donc, je conseille très vivement aux couples, d'une part, de réfléchir déjà entre eux, et d'essayer de comprendre et d'élaborer entre eux pourquoi il faudrait dire, qu'est-ce qu'ils veulent dire et à quel moment. Et effectivement, ça nécessite de la part de ces hommes et de ces femmes d'une réflexion en amont, hein, en amont de savoir ce qu'on va dire à un enfant. Moi, j'ai assez souvent reçu des couples qui se posaient ce genre de questions. D'abord que les situations sont différentes. Je pense que pour un homme et une femme qui conçoivent un enfant avec leur propre gamète, la situation, c'est que la fécondation s'est faite en dehors, c'est une fécondation in vitro, donc en dehors du corps de la mère, on va dire, mais l'enfant est l'enfant génétique de son père et de sa mère, de cet homme et de cette femme. Est-ce que, dans la vie, est-ce que vous pensez que les couples qui ont des enfants sous la couette explique à leur enfant dans quelles conditions ils l'ont conçu. Est-ce que c'était à Rome? Est-ce que c'était à Venise? Est-ce que c'était pendant les vacances, etc. Ça peut arriver, mais on peut pas dire que c'est indispensable. Voilà. Autrement dit, si des couples génétiques veulent parler à leur enfant de comment, à quel moment et dans quelle position cet enfant a été conçu, pourquoi pas? Mais franchement, j'en vois pas vraiment la nécessité. Moi, je n'en vois pas la nécessité, mais si eux en voient la nécessité, pourquoi pas ? La situation me paraît un petit peu différente lorsqu'il y a un don de gamètes, que ce soit un don d'ovocytes ou un don de spermatozoïdes. Je pense que la situation est différente pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes, personnellement, ce que j'ai pu observer, c'est que les hommes avaient une certaine difficulté à pouvoir déjà accepter la chose et éventuellement la transmettre à l'enfant, car il y a une certaine confusion entre impuissance et stérilité. Évidemment, ces hommes ne sont pas impuissants, ils sont stériles, mais c'est pas toujours évident, voilà, à concevoir. Un de ces hommes avait dit un jour quelque chose que j'ai trouvé assez extraordinaire. Il m'avait dit, donc, l'enfant allait naître, la femme était enceinte, l'enfant allait naître par insémination avec donneur, et effectivement, il venait me consulter pour savoir ce qu'ils allaient dire. Et cet homme, lui, avait bien réfléchi à la question, et il m'avait dit, j'ai adopté un spermatozoïde. Ce que j'ai trouvé, alors vraiment, bien réfléchi, bien pensé, et bien dit. Voilà, alors ensuite, si les couples conçoivent, eux, si ce couple-là conçoit que oui, il faut dire quelque chose, que ça a une nécessité pour eux, je pense qu'il faut que ça soit toujours su. Hein, il n'y a pas un âge où tout d'un coup à faire une révélation. Hein. Je compare ça à l'adoption. Un enfant adopté, maintenant, il vaut mieux que ça soit toujours su. Et donc, alors pas tous les matins, hein, on ne va pas lui expliquer tous les matins comment il a été conçu, mais au moment où on commence à expliquer à un enfant comment naissent les enfants ou comment sont conçus les enfants, ben voilà, c'est une occasion. Et puis il y en aura d'autres. Donc ça doit être toujours su et pas un effet de révélation. Je pense que dans la vie, ce sont les parents qui ont des difficultés. Une fois qu'ils ont surmonté d'éventuelles difficultés, à ce moment-là, ce qu'ils ont à dire, ça coule presque de source. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Qu'est-ce que je vais dire à mon enfant ? Le problème est comment est-ce que notre couple a élaboré cette affaire, y a pensé et a décidé, si possible, ensemble, de ce qui va être dit au moment opportun.
Bonjour, je m'appelle Sophie. Je voulais savoir quel rôle peut jouer la parole d'un adulte qui n'est pas le parent de l'enfant, sans perturber ou sans contredire ce que les parents ont mis en place. Par exemple, quand il y a un décès, un grand-parent qui est mort et que les parents disent « il est parti » ou « il est au ciel », comment un adulte tiers peut se positionner et quel rôle peut jouer la parole de l'adulte tiers. Merci.
Un adulte tiers, d'abord ça dépend qui est cet adulte. L'idée que j'ai, c'est que il doit rester à sa place. Si les parents disent quelque chose qui lui paraît, on va dire, un peu à côté de la plaque, et que lui aurait envie de dire quelque chose, à mon avis, il ne devrait pas s'y autoriser sans l'accord des parents. Alors, ce qu'on voit en réalité, c'est que, par exemple, quand il y a le soi-disant secret de famille, où en fait, il y a souvent beaucoup de personnes qui sont au courant, c'est souvent une personne tierce qui fait une révélation, parfois en n'ayant pas du tout l'intention de faire une révélation. Voilà, ça peut faire des dégâts, ou au contraire, ça peut arranger les choses. Mais je crois qu'il faut d'abord se demander quel est son rôle par rapport à cet enfant, avant de dire des choses qui iraient en contradiction avec ce que disent les parents. Je crois que le mieux dans ces situations, c'est d'abord d'en parler aux parents, plutôt que de faire d'éventuels dégâts en parlant directement à l'enfant. Alors, il arrive aussi, évidemment, que l'enfant aille questionner une personne tierce, qu'elle soit de la famille ou pas, d'ailleurs. À ce moment-là, la personne tierce, si elle répond impulsivement ce qu'elle sait, bon, ben voilà, c'est fait. Sinon, elle peut soit dire, écoute, moi je sais quelque chose, mais je pense que ça serait à tes parents de te tenir au courant, et allons ensemble éventuellement questionner tes parents. Le plus souvent, enfin moi ce que j'ai vu, c'est par exemple la personne qui s'occupe des enfants et qui sait quelque chose que l'enfant ne sait pas, bah, c'est elle qui lâche le morceau, on peut dire. Faut pas avoir trop peur.
Oui, bonjour, message de Sylvie. Je voulais savoir s'il y avait un âge limite pour entreprendre ou pour reprendre une psychanalyse. Merci.
Pour entreprendre une psychanalyse, de mon point de vue, il n'y a pas d'âge limite, ni au début de la vie, ni à la fin de la vie. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé avec les bébés et j'ai également beaucoup travaillé avec les personnes âgées, quel que soit leur âge. Et dans le fond, il me semble que c'est ce que j'ai préféré, ces deux extrêmes de la vie. Alors évidemment, c'est pas tout à fait la même chose, mais très sincèrement, je pense qu'il n'y a pas d'âge et que à tout moment, on peut, si on souffre, si on a un motif pour ça, aller consulter un psychanalyste. L'expérience que j'ai avec des personnes âgées, qu'elles soient malades ou pas d'ailleurs, c'est que bon, d'abord pour le psychanalyste, c'est totalement passionnant. Parce que les personnes âgées ont toute une vie à nous raconter et que on est, enfin personnellement, j'étais souvent éblouie par ces récits de vie. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les problèmes, ce que j'ai entendu en tout cas, sont souvent des problèmes avec les enfants ou avec les petits-enfants, et que il suffit parfois de pas beaucoup de choses pour que ça aille mieux. Hein. Il ne s'agit pas, je veux dire, quand on est très avancé dans la vie, bon, les choix sont faits, la vie est derrière soi, etc. Il y a encore des choses qui accrochent, et souvent, il ne faut pas grand-chose pour que ça aille mieux. Et donc, pour le psychanalyste, c'est extrêmement satisfaisant. C'est un peu comme avec les bébés, justement, où en quelques séances, on voit les résultats. Alors, le bébé a la vie devant lui. La personne âgée a encore un moment de vie devant elle, mais en tout cas, je peux vous dire que des psychanalystes comme moi ont une vraie affection, déjà, pour les personnes âgées et aiment énormément les recevoir. Merci aux auditeurs pour leurs questions et merci à l'équipe, Guillaume Ledu à la technique, Valentine Chedebois pour le choix du disque, Franck Olivard qui récolte vos questions, Audrey Ripouille et Étienne Bertin à la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Laurie Laufer qui traitera du transfert. Quant à moi, je vous retrouverai dans un mois, le 9 avril, et je répondrai à la question « Peut-on responsabiliser sans culpabiliser ?»